Hello à tous. Donc on va finaliser cette série sur la communion hein, ou la scène dans les milieux protestants et l'Eucharistie dans le milieu catholique. On va poursuivre avec cette dernière partie. Normalement, je ne vais pas forcément faire un résumé des deux premières, pas pour vous obliger à les suivre, mais parce que ça va me faire perdre des minutes encore et je voudrais rester raisonnable au niveau timing pour cette dernière partie. Voilà, donc je voudrais enchaîner directement avec vous à un autre élément, une autre perspective qui me paraît peut-être pas essentielle, mais tellement importante, tellement profonde, tellement vivifiante, notre manière d'approcher la communion. On va prendre ensemble un passage, le chapitre 10 d'Hébreux, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant, qu'il nous a frayé à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Et ayant un grand souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors vous me direz pourquoi choisir le chapitre 10 d'Hébreux par rapport au sujet de la communion. On va le voir ensemble pour au moins deux raisons. La première, c'est approfondir le terme traduit dans nos Bibles, chemin nouveau, nouveau. Le terme en grec est prosphatos. Le terme grec est utilisé d'ailleurs qu'une seule fois dans le Nouveau Testament et veut dire littéralement un animal fraîchement sacrifié, qui vient d'être tué, égorgé, pour le sacrifice. Donc, d'une manière plus large, lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle d'un chemin nouveau et vivant, il est en train de nous parler de Jésus, qui est constamment un sacrifice frais, un sacrifice fraîchement immolé pour nous. J'imagine que vous vous souvenez de l'épisode de la manne et des cailles, en tout cas en particulier de la manne qui tombait des cieux, comme le pain d'ailleurs qui descendait du ciel à l'époque citée par Moïse, où le peuple israélite était encouragé, même sommé, hein, était commandé à ne prendre que la provision pour la journée et non pas à en accumuler pour plus tard. Et en effet, la manne, si elle était accumulée, pourrissait, périmait avec des vers dedans. Et de la même manière, c'était un enseignement et une vision symbolique, une perspective qui met en lumière ce sacrifice de Christ, qui est un sacrifice éternel. Vous vous rappelez dans Apocalypse et puis dans 1 Pierre, je ne sais plus combien, où il est dit que l'agneau est immolé avant la fondation du monde. Je pense que les versets vont apparaître en bas de l'écran. Donc le sacrifice de Jésus-Christ s'est manifesté dans notre axe, dans notre dimension temporelle, mais pour autant possède cette qualité d'être éternel, en dehors de notre temps, tout comme Dieu est éternel et en dehors même du temps, qui est l'alpha et l'oméga. Donc ce sacrifice éternel qui s'est manifesté dans notre temps à travers l'apparition de Jésus-Christ dans la chair et à travers son œuvre à la croix, ces sacrifices éternels manifestés momentanément dans notre temps, dans notre axe temporaire, si je peux dire, possèdent constamment cette qualité de fraîcheur. Le sacrifice de Jésus-Christ, lorsque vous approchez de la communion, de ce partage du pain et de la coupe, possède constamment la pleine fraîcheur du sacrifice pour vous. Vous pouvez littéralement avoir la conscience de s'approcher du pain et du vin avec un agneau fraîchement immolé pour vos péchés et pour vos infirmités et maladies. Donc vous m'aurez compris, j'imagine, je ne suis pas en train de dire que Jésus est sacrifié ou tué plusieurs fois à répétition, mais le sacrifice en lui-même parfait de Jésus-Christ possède d'une manière inhérente cette qualité de fraîcheur constante, où c'est comme s'il était livré à chaque fois tout fraîchement, tout dernièrement pour vous, ici et maintenant. Il me semble que c'est une approche tellement importante à avoir lorsque nous partageons le pain et le vin, non pas comme un sacrifice périmé, si je peux dire ainsi, en tout cas qui lourdement pèse des 2000 années, enfin plus de 2000 années où ça s'est manifesté, parce que littéralement ce sacrifice peut être approché avec toute la fraîcheur qu'il possède constamment, comme s'il avait été sacrifié ici et maintenant pour vous. On verra ensuite l'analogie avec le veau gras dans la parabole du fils prodigue. La deuxième chose que j'aimerais alors peut-être survoler rapidement, mais qui a vraiment son intérêt, il me semble, lorsqu'il est dit que ce chemin nouveau et vivant, qu'il nous affrayait à travers le voile, c'est-à-dire sa propre chair, qu'il nous affrayait, en français, littéralement, le terme grec peut vouloir dire plutôt inaugurer, mais pour autant, ce terme grec est tout particulier puisque il se nomme eg kainizo, donc il va apparaître en bas de l'écran aussi. Il est composé de deux particules. La première est eg qui provient de en, qui veut dire dans ou à l'intérieur, et kainizo qui veut dire faire à nouveau ou renouveler. Littéralement, ce terme est plus que simplement refaire à nouveau ou renouveler, mais c'est même, si on veut être plus littéral sur le terme, renouveler ou faire à nouveau à l'intérieur. Pourquoi je précise cette subtilité? Parce que Jésus, à travers son corps, à travers sa propre chair, qui a été sacrifiée pour nous, était symbolique de ce voile qui a été déchiré de haut en bas, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Alors j'imagine vous rappeler la différence du lieu saint et du lieu très saint. Le lieu très saint, où une fois l'année, un souverain sacrificateur pouvait y accéder pour le grand pardon de tout le peuple. Là où était bien sûr le propitiatoire avec les chérubins, et donc la tradition, le sacrifice annuel pour les péchés du peuple. Donc ce lieu très saint où la Tchéquina, la gloire de Dieu, la présence de Dieu même pouvait se manifester, était séparé par ce voile. Donc, pour revenir à notre texte, Jésus qui, à travers son corps, à travers sa chair, qui représentait le voile déchiré de haut en bas, a permis à ce que, à travers son corps, l'accès même au lieu très saint soit accessible d'une manière constante et permanente. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous? C'est que ce ek kanaizo, c'est à travers sa chair et à travers son corps, il a fait à nouveau d'une manière intérieure, il a renouvelé d'une manière intérieure également notre accès au lieu très saint. Ça veut dire qu'une fois pour toutes, notre corps à nous-mêmes, qui était selon l'incarnation de Jésus dans sa propre chair et dans son propre corps, notre corps aujourd'hui n'est plus barrage, n'est plus synonyme de barrage, notre chair n'est plus synonyme de barrage entre le lieu saint et le lieu très saint. Mais au contraire, à travers la chair de Jésus-Christ qui s'est livrée, qui a été crucifiée, qui a été sacrifiée, nos propres corps sont désormais maintenant au bénéfice complet de ce lieu très saint, au sein du corps dans lequel nous vivons, qui est le sanctuaire du Dieu vivant, le sanctuaire de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, notre corps est pleinement participatif, participant du lieu très saint. C'est tellement important. Ça a été fait et renouvelé d'une manière complète. Kainizo, et Kainizo, hein, qui est exactement le même mot à la racine de Kainos, création, à une toute nouvelle création qui n'a jamais paru. Et Kainizo porte le même sens. Quelque chose qui n'a jamais paru a été renouvelé à l'intérieur de nous afin que notre corps ne soit plus jamais une barrière, un barrage entre le lieu saint et le lieu très saint. Autrement dit, que notre corps ne fasse plus jamais barrage pour accéder et pour avoir le bénéfice de la présence même, de la Tchéquina même, de la gloire même du Dieu vivant. Donc il me semble que ça a son importance de réaliser ce qui a été opéré à travers la chair, à travers le corps de Jésus-Christ, afin même que nos corps soient au bénéfice de l'accès complet, en plénitude, à la gloire de Dieu, à la manifestation de sa gloire. Voilà. Un autre élément que j'aimerais aborder avec vous en lien avec la notion de cette fraîcheur de sacrifice est la parole de Paul dans 1 Corinthiens 11 où il répète les paroles du Sauveur, les paroles de Jésus-Christ en disant que Jésus disait de prendre le pain et la coupe en se souvenant de lui, en souvenir de lui. Et aussi le texte dans Luc est également présent. En souvenir de moi, lorsque Jésus délivre cette parole, c'est pas un souvenir comme peut-être nous on peut l'interpréter, c'est-à-dire un souvenir de la couleur de ses cheveux, de ses yeux ou même de ses paroles. Non, c'est plus que ça. La correspondance en hébreu de ce mot est zikaron. Ça s'affichera aussi en bas de l'écran. Zikaron, dans la tradition hébraïque, dans la compréhension hébraïque, possède le sens tout particulier de repasser l'événement, repasser le processus même d'un événement. qui est bien plus, j'allais dire, profond encore que juste ce souvenir d'une personne. Et lorsqu'on sait que Jésus-Christ replace ce contexte de souvenir de lui à travers le pain et à travers la coupe, et qui fait complètement lien à son parfait sacrifice, son sang qui sera répandu pour le pardon de nos péchés, entre autres, et pour sceller la nouvelle alliance, et son corps qui sera brisé, meurtri, flagellé, pour notre guérison. Jésus, clairement, lorsqu'il dit en souvenir de moi, interpellait ses disciples, lorsqu'on prend, pardon, le pain et la coupe, à repasser le sacrifice de Christ, à repasser l'événement en nous-mêmes qu'il a dû subir, qu'il a dû vivre pour nous. Et c'est en lien complet avec la fraîcheur du sacrifice. On s'approche du parfait sacrifice de Jésus-Christ avec toute la fraîcheur qu'il possède et en repassant ce qu'a subi l'agneau immolé pour nous, que ce soit à travers les meurtrissures et à travers son corps crucifié et son sang répandu. J'allais dire, tel terreau de révélation, de repasser l'événement, pas du tout d'une manière religieuse, même pas d'une manière solennelle, même pas pour forcément attrister nos cœurs, quoique ça pourrait arriver de sentir le poids de sa souffrance, mais j'allais dire au-delà ou en parallèle de ça, c'est de creuser dans les révélations de son sacrifice pour nous, de repasser cet événement. Je suis convaincu que le corps de Christ sera au bénéfice de flots de révélations, à se rapprocher de nouveau de la communion, en repassant l'événement, pas d'une manière religieuse, mais dans le relationnel avec leur sauveur, avec l'agneau immolé en face d'eux-mêmes, à creuser les pépites et les pierres précieuses de son sacrifice pour nos corps et pour notre cœur. Voilà sur ce point où je voulais assister ensemble. Il y a un autre point qui est très intéressant. Au verset 26 du chapitre 11 de 1 Corinthiens, Paul écrira aussi « Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, c'est très très intéressant aussi qu'il ait écrit ça, parce que le terme « annoncer » en grec a sa correspondance en hébreu dans un texte très important dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, qui est Lévitique 23, chapitre 23, du verset 23 au verset 24, où il est directement en lien, le fait de s'annoncer, de proclamer avec le son du shofar, ils appellent ça le mémorial, vous lirez le texte de Lévitique, le mémorial du jour de Shabbat. Donc de la même manière, cette notion de se souvenir de lui porte cette puissance d'annoncer la mort du Seigneur, de proclamer la mort du Seigneur et de même de rejoindre des proclamations, des messages au son du shofar de la mort, de proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a une puissance, peut-être que ça peut être encore flou pour vous aujourd'hui, mais lorsqu'on verra ensemble de pénétrer, de participer plus pleinement à l'atmosphère céleste en s'approchant du pain et du vin, il y a une dimension où dans cet acte même de s'approcher du pain et du vin, nous proclamons, nous rejoignons, nous initions même les sons du shofar, des sons des trompettes, pardon, dans les cieux qui annoncent la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On rejoint la puissance de sons qui sont manifestés dans le céleste et qui déclare des choses. Alors ça sera peut-être un autre sujet vraiment intéressant dans d'autres vidéos, mais combien on est appelé à rejoindre des sons, des tonnerres dans les cieux qui peuvent être la voix des saints, qui peuvent être la voix des anges, qui peuvent être la voix des anciens. On est appelé à être cette ecclésia, ce peuple sorti de cette réalité terrestre pour rejoindre sa véritable habitation, sa véritable citoyenneté, celle du céleste, pour rejoindre, pour initier des sons qui font littéralement trembler la terre. On verra ça dans ce qui est dit aussi dans les psaumes par rapport à ça, peut-être dans une autre vidéo. Bref, pour revenir à la communion, on va voir ensuite ensemble, même si ça revient un petit peu, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse insister là-dessus. Cette dimension, si on revient au verset 22 du chapitre 10 d'Hébreux, nous lisons, le texte va s'afficher, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. » J'insisterai sur cette dernière expression, « le corps lavé d'une eau pure ». C'est tellement important, comme je disais, de ce qui a été accompli à travers la chair, à travers le corps de Jésus-Christ, afin que nous-mêmes, notre corps, ne soit plus jamais barrage et frontière entre le lieu saint et le lieu très saint. De la même manière, ce verset 22 nous montre que notre corps est au bénéfice de l'eau pure qui le lave. C'est, autrement dit, notre corps est au bénéfice de la sanctification également. Là, je ne parle pas de la sanctification comme un processus, je parle de la sanctification pour l'action manifestée par la sainteté même dont on a hérité gratuitement à travers le sacrifice de Christ et à travers le don de la justice. La sanctification n'est pas un processus. Si vous regardez en grec, à chaque fois que le mot sanctification a été traduit dans nos Bibles, c'est littéralement sainteté. Sanctification implique un processus qui n'existe pas dans le Nouveau Testament. C'est très important. Agios, le terme grec pour la sainteté dont nous avons hérité gratuitement en Christ, parle d'une identité, parle d'un revêtement que nous avons reçu en Christ, le fait que nous avons été littéralement séparés d'eux, la vraie signification d'agios, être séparés d'eux, être mis de côté, être particulier, spécial, qui est la vraie signification de agios, de sainteté. Bon, ça c'était la petite parenthèse. En tout cas, notre corps est aussi au bénéfice de cette sainteté, est aussi au bénéfice de cette mise à l'écart, de cette séparation de l'aspect naturel et du monde. Donc notre corps est au parfait bénéfice, aussi vrai que notre âme et notre esprit, de la tchékina du Dieu vivant, de la présence de Dieu, du bénéfice de son œuvre. Et je veux insister sur ce point-là, parce que lorsque on verra ensemble d'engager cette atmosphère céleste à travers la scène, à travers la communion, le pain et le vin, c'est réaliser que notre corps est au complet bénéfice. Je crois qu'au tout premier des vidéos, non, peut-être la vidéo où je parlais de l'appel du céleste, où il est parlé dans Exode 24 des anciens de Moïse et Josué, qui sont sur la mer du cristal en présence même de Dieu, à faire leur casse-croûte, si vous me permettez l'analogie, leur corps a été invité et transféré souverainement dans une dimension qui était céleste, le céleste sur terre. De la même manière, lorsque Paul va dire lui-même que les révélations, et lorsqu'il était transporté en extase dans le troisième ciel, lui-même ne savait pas si c'était dans son corps ou en dehors de son corps. Seul Dieu le savait. Il faut qu'on réalise que on n'a surtout pas de notre propre initiative, psychologiquement, j'allais dire, consciemment ou inconsciemment, exclure notre corps d'une expérience du céleste et de l'expérience de cette communion du pain et du vin. Au contraire, il est complètement incorporé, participant de cette réalité céleste et de la communion du pain et du vin. Tellement important dans nos rencontres avec Jésus, dans l'atmosphère céleste. Tellement important. Donc, vous avez dû le comprendre, où là, plusieurs fois, je parle de cet environnement céleste parce que c'est quelque chose qui maintenant fait partie de ma vie. Alors attention, quand je dis ça, je replante le décor. Ce n'est pas du tout un vocabulaire d'élitisme spirituel. Loin de là, quand je vous le disais dans la vidéo sur l'appel du céleste, lorsqu'en fin février 2019, Jésus disait « Mais tu réclames encore à ce que je t'apparaisse, mais moi, ce que je désire, c'est que toi, tu m'apparaisses. » Et ça initie en moi un complet réapprentissage d'apparaître dans le céleste, de comprendre ce que ça veut dire, et même de commencer à toucher à la simplicité de ce que ça voulait dire. Jésus nous a fait une toute nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17, où les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouvelle création, cette toute nouvelle kainos, toute nouvelle création que nous sommes, est un être spirituel qui est j'allais dire, en interaction avec plusieurs dimensions, la terrestre à travers notre corps et la céleste. Et aussi simple que nous avons appris à être en interaction avec une table physique, avec les bruits des oiseaux, avec la présence de votre épouse, de vos enfants, aussi simple, le peuple céleste est appelé à découvrir avec simplicité, spontanéité et profondeur l'interaction avec la dimension céleste. C'est tellement important, ça fait partie de notre aujourd'hui identité essentielle et primordiale en tant qu'enfant du Dieu vivant, enfant de lumière, enfant du Père qui est parfait, enfant du Père qui est céleste. Bref. Donc, cette dimension, cette invitation au céleste, à travers même l'acte qui peut paraître simple et très naturel, très terrestre, de s'approcher du pain et du vin, est complètement un acte céleste et a besoin d'être vécu dans cette atmosphère. Non pas, je vous le redis, pour insister sur une espèce de compréhension élitiste. Ça n'a rien à voir. C'est rejoindre, engagé, c'est appelé à pratiquer une dimension qui doit devenir, entre guillemets, naturelle pour nous, d'intégrer cet environnement céleste qui est notre famille céleste, cette nuée de témoins autour de nous, ces myriades angéliques autour de nous. Bref, donc, cette dimension d'intégrer, de rejoindre cette dimension céleste à travers la communion, on va le voir ensemble, est particulièrement relié, j'allais dire, au festin des cieux, au festin du sanctuaire des cieux, qui sont les cieux eux-mêmes, comme le dira Hébreu. Vous rappelez certainement la parabole, il me semble que c'est dans Luc 15, la parabole du fils prodigue. Pourquoi je veux insister sur cette parabole? Simplement parce que dans cette parabole, il est indiqué que le Père prépare un vrai festin. Hein, il fait tuer le veau gras littéralement et il veut se réjouir avec le fils qui revient. Si vous reprenez un petit peu le passage antérieurement, lorsque le fils revient lui-même et qui entre guillemets, il se repent, il réalise combien c'était une mauvaise idée, c'était tellement pas bon pour lui. De se détourner de son père et de vouloir vivre sa propre vie après d'être dilapidé de son propre argent, il retourne à son père et il veut retourner comme un simple serviteur. Mais son père court à lui et n'attend même pas que le fils puisse donner tous ses arguments pour être un serviteur, mais va demander le père à ses serviteurs de revêtir de nouveau son fils. Alors, est-ce que vous vous rappelez, enfin j'imagine que oui, il le revêt d'abord de sa robe. C'est tellement intéressant si vous reprenez le texte des termes utilisés en grec. Le terme utilisé en grec pour que cette meilleure robe est littéralement protos stolé. Protos implique le même sens grec lorsqu'il est parlé que Jésus-Christ est le premier de tous les nouveau-nés et le premier de toute la création. Protos, la notion de première. Et stolé parle d'une robe jusqu'aux pieds que généralement les femme portait aussi une robe qui le recouvrait complètement. Et ce même terme en grec, stolé, est utilisé exactement pour la robe blanche qui revêtait les saints dans Apocalypse, qui était le revêtement de cette robe de fin lin qui représentait les œuvres de justice des saints, de Christ lui-même. Donc cette protos stolé est pas n'importe quelle robe. Le Père revêt le Fils de la robe de justice, de la première robe, de l'ancienne Rome, si je pourrais dire, de la robe de l'agneau immolé avant la fondation du monde, de la justice du Christ éternel. Ensuite, il insère, ou en tout cas, il lui remet l'anneau. L'anneau en grec est dactylios, qui vient du terme doigt. Et j'imagine que comme moi, vous vous rappelez lorsque Jésus dira lui-même, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, mais alors le royaume de Dieu, le royaume des cieux est tout proche de vous. Lorsque le Père remettait cet anneau, il remettait l'autorité du royaume des cieux à son Fils. Et on se rappelle des paroles de Jésus qui dira à cette ecclésia, je donnerai les clés du royaume de Dieu. Et ce que vous lirez ou ce que vous interdirez sur terre sera aussi délié. Aura été plutôt, pardon, lié dans les cieux, et ce que vous délirez sur la terre aura été délié dans les cieux. Les clés du royaume de Dieu. Donc le Père revêt, sans même entendre les arguments, sans même attendre une amélioration du comportement du Fils, sans même attendre une obéissance de plus en plus parfaite, sans même attendre qu'il n'y ait plus qu'une seule ride dans le comportement de son Fils. Le Fils l'a revêtu. Et a demandé à ses serviteurs, si vous relisez le texte, de tout de suite faire tuer le veau gras et de commencer la fête. Pourquoi je vous parle de ce texte? Parce qu'il est tellement important de comprendre qu'aujourd'hui nous avons accès au festin des cieux. Et se festoyer du parfait sacrifice de Christ est un élément primordial du festin des cieux. J'allais dire presque central de ce festin céleste. Et le Père n'attend pas, selon la théologie qu'on a pu créer aujourd'hui dans l'Église, une épouse parfaite, sans rides, qui en fait, dans nos théologies actuelles, est liée à l'expérience que nous pouvons voir aujourd'hui de l'Église, où on attend une Église parfaite. Mais le Père a déjà devant lui une Église qui est parfaite. Le Père a déjà devant lui une Église sans rides. En bas s'affichera tous les versets, en particulier des épîtres de Paul, où il montrera cette révélation, en particulier dans Éphésiens 5, que nous avons été plantée comme l'épouse sans aucune ride, afin d'apparaître devant lui sans ride dans la justice de Christ, parce qu'unie complètement et parfaitement avec le Christ. Donc le festin des cieux est un environnement céleste qui est accessible pour nous aujourd'hui et maintenant, parce que nous sommes son épouse sans ride à cause de la robe de justice dont nous avons été revêtus, le don de justice dans Romains 5 dont nous avons reçu et la surabondance de la grâce. La chose également, c'est que lorsque le Père demande au serviteur de faire revêtir la robe au Fils prodigué, le mot revêtir est endouo en grec, le même terme exactement que Paul utilisera pour revêtir l'homme nouveau. Voilà, si nous reprenons le passage de Luc 14, je ne reprendrai pas tout, du verset 12 au 24, ça va s'afficher sur l'écran, mais c'est la parabole où le maître veut faire inviter tous les invités normalement prévus sur la liste pour le mariage. Et les invités prévus trouvent tous des excuses, vous vous rappelez de ce texte-là. Et là, le maître demande à ses serviteurs, et là je lirai à partir du verset 21, « Et le serviteur étant de retour, rapporte cela à son maître. Alors le père de famille, en colère, dit à son serviteur, « Va-t'en promptement sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles. » Ensuite le serviteur dit, « Seigneur, on a fait ce que tu as commandé, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et les longs de la haie, contraint d'entrer ceux qui y sont, afin que ma maison soit remplie. » Le père désire que sa maison soit pleine pour profiter, pour se délecter du festin des cieux, qu'est ce faux gras, qu'est la perfection du sacrifice de Christ. Si vous relisez le chapitre 55 du livre d'Ésaïe, c'est un tellement beau chapitre prophétiquement sur ce festin, sur Jésus qui nous invite à se nourrir à lui et à boire à ses eaux vives gratuitement et d'enfin acheter gratuitement une nourriture qui nous satisfait. La communion, au-delà et pas au-delà, en parallèle de cette communion d'intériorité de cœur à cœur avec lui, et il y a aussi, cette, comme je l'avais indiqué dans les premières vidéos, une autoroute, si je peux dire, une passerelle, une perspective, un moyen tout particulier de profiter de la nourriture que Christ est pour nous, et la boisson et le breuvage qu'il est pour nous. C'est une parenthèse, mais je pense que ça a son importance. Lorsque de Jean 6, vous relisez les versets à partir du verset, je crois que c'est 55 au verset 28, 58, lorsqu'il est parlé de manger mon corps, lorsque Jésus utilise le mot manger ma chair, manger, il y a plusieurs termes en grec pour manger, il y a phagos, qui parle de manger en général, et il y a trogo, qui veut dire mâcher en croustillant, en ayant le bruit des craquements. Et cela évidemment nous rappelle, enfin évidemment en tout cas nous rappelle la tradition juive lorsqu'ils fêtaient la Pâque, lorsqu'ils mangeaient leur pain azim, le bruit que les mâchoires faisaient ou les dents faisaient lorsqu'ils mangeaient ce pain azim, c'était... Donc Jésus littéralement fait une référence à la même tradition de Pâques chez les Juifs avec ce pain azim qui craquelait sous leurs dents. De la même manière, il se réfère à lui-même en disant « mangez ». Trogo, ma chair. Donc Jésus, clairement, et peut-être en parallèle de d'autres manières de vivre, cette nourriture auprès de lui, faisait référence directe au partage du pain et à la coupe de vin lorsqu'il disait de manger son corps. Voilà pour ce festin céleste dont on a besoin tellement d'initier et d'engager. Dans les dernières vidéos, je vous en ai parlé, je vais enfin en parler maintenant, sans laisser le suspense, parce que peut-être qu'il y en a qui se disent, est-ce qu'il va nous le dire? J'avais parlé de mon fils, Laël, à 9 ans et demi, qui a commencé à partager la communion avec nous de son propre désir. Et les premières scènes, lorsqu'on a partagé les premières communions ensemble, je l'ai juste transmis au début, la notion de pouvoir fermer ses yeux, de pouvoir engager le céleste, et de laisser le Saint-Esprit lui montrer ce qu'il veut lui montrer. C'est les simples paroles que je lui donnais avant de prendre la communion, et bien sûr ce que représentait le pain et la coupe, même si il le savait déjà. Les premières scènes qu'il a vécues, et qu'il m'a racontées, parce que j'avais hâte qu'il me dise ce qu'il avait vécu, parce que je le voyais troublé quand il avait vécu ça. La première chose, c'est qu'il s'est vu directement dans la salle des trônes. Je lui en avais jamais parlé. Il m'a détaillé les trônes qu'il voyait. C'était des détails que moi-même j'avais vus et que d'autres personnes avaient vus en allant dans cette salle des trônes. La deuxième scène, lorsqu'il a repris la communion, parce que comme il me disait, « Mais papa, à chaque fois que je prends la communion, c'est comme si les scènes étaient en train de s'enchaîner. » La deuxième scène, Jésus le conduisait à une salle de repas avec une énorme grande table. Donc je lui en avais jamais parlé, ni clair, avec une grande nappe blanche sur la table, avec Jésus au bout de la table, mais qui lui paraissait si proche, et d'autres personnes avec lui dans la table. Et il me disait, et ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'à un moment, sur la table, est apparu un gros poulet. Et il me parlait de l'odeur de ce poulet, comment il sentait que c'était tellement bon de pouvoir le manger. Bon, bref, avec d'autres scènes qu'il a vécues, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est enfant, la grâce que la religiosité nous étouffe pas, nous exclut, nous éloigne de la simplicité de Christ, fait que les symboles, comme on en a déjà parlé ensemble, les images qu'on peut voir, nous n'avons pas la responsabilité de séparer ces images ou ces symboles de la réalité spirituelle ou céleste qu'elle engage, parce que Dieu ne le fait pas. Ce n'est certainement pas à nous de les séparer et de dénigrer ce que nous voyons en symboles ou en estimant que ce ne sont que des symboles, parfois même séparés ou moins importantes que la réalité céleste. Je peux vous assurer, le nombre d'expériences que vous allez pouvoir vivre dans la simplicité de la nouvelle création que vous êtes, lorsque vous cesserez de séparer ou de dénigrer les symboles ou les images que vous voyez de la vraie réalité spirituelle et céleste. Parce que ce sera des expériences où vous allez sentir dans votre corps, dans votre cœur, pardon, dans votre homme intérieur, que ça va être gravé. Parce que vous n'allez pas toucher simplement des symboles, vous allez toucher à ce qui est esprit et vie. Tellement important de saisir ça ensemble. Vous pourrez relire aussi le psaume 36, chapitre 36, verset 8. « Ils seront abondamment rassasiés de la graisse de sa maison, et tu les abreuveras du fleuve de tes délices. » Alors, je vous l'avais dit, on va enchaîner rapidement ce sujet parce que je vais l'amener en étant plus dans le questionnement sur la notion d'incorruptibilité ou d'immortabilité en prenant le chapitre 6 du verset du livre de Jean, du verset 55 au verset 58. Donc je crois que c'est la Passion Translation que je lis là. « Mon corps est une véritable nourriture pour ton esprit et mon sang est un vrai breuvage. Celui qui mange mon corps et boit mon sang vit en moi et je vis en lui. Le Père de la vie m'a envoyé et il est ma vie. De la même manière, celui qui se nourrit de moi, je deviendrai sa vie. Le Père de la vie qui m'a envoyé, et il est ma vie. De la même façon, celui qui se nourrit de moi, je deviendrai sa vie. Je ne suis pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé et qui sont morts plus tard. Je suis le pain vivant qui vient du ciel. Mangez ce pain et vous vivrez pour toujours. » On verra rapidement un autre passage, 1 Corinthiens 10, 5. « Mais Dieu ne mit point son affection, en la majorité ou la plupart d'entre eux, car ils tombèrent morts dans le désert. » Selon un commentaire de Jewish Commentary New Testament, il parle dans ce verset que c'est un euphémisme de la part de Paul, puisque de tous les Israélites de plus de 20 ans, seuls Josué et Caleb ont été autorisés à entrer en terre promise. Et ça, vous le lisez en Nombre 26, 65. Dieu qui ne mit point son affection en la plupart, car ils tombèrent morts dans le désert. Le lien cause à effet, Dieu ne mit point son affection en eux, car, la raison, ils tombèrent morts dans le désert. Si on revient à Jean 6, 55-58, je ne suis pas comme le pain de vos ancêtres qu'ils ont mangé et où ils sont morts plus tard. Je suis le pain vivant qui vient du ciel. Très souvent, théologiquement, par peur, j'imagine, on a interprété d'une manière naturelle ou physique, ou matérielle, si je peux dire, des versets où on estimait que Jésus ne parlait que d'une manière, pardon, plutôt spirituelle de certaines paroles de Jésus, alors qu'elles pouvaient aussi englober l'aspect bien tangible, matériel et naturel. Quand on relit le verset 58, Jésus est en train de faire une comparaison entre la manne tombée du ciel, que les ancêtres ont mangé, mais où ils sont morts, et où lui est le vrai pain de vie, où lui est le vrai pain descendu des cieux. Celui qui me mange vivra pour toujours. Est-ce que c'est un simple hasard, une simple correspondance sans sens, sans raison particulière, que Jésus fait la comparaison entre ses ancêtres qui sont quand même morts en ayant mangé la manne et le fait que lui est le vrai pain de vie et qui nous encourage à le manger pour vivre toujours? C'est une question que je vous pose, les amis. Mais si vous relisez le contexte, Jésus fait une correspondance et une comparaison tellement intéressante qui, a priori, n'implique pas seulement la vie éternelle spirituelle, si je peux dire ça. C'est-à-dire une vie où on a une qualité de vie pour connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, mais où on est appelé quand même à rencontrer la mort à notre dernier souffle. C'est un questionnement, les amis, ne me voyez pas créer quelque chose de nouveau ou quoi, mais je vous pose la question, plus pour vous gratouiller, si je peux dire, et que vous-même, vous ayez la curiosité d'aller creuser et d'aller regarder. De Timothée 1,10, et qui a été maintenant manifesté par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Autrement dit, dans la version Translation Passion, cette vérité est maintenant dévoilée par la révélation de loin Jésus, notre donneur de vie qui a démantelé la mort, effaçant tous ses effets sur nos vies et a manifesté sa vie immortelle en nous par l'Évangile. Je vous laisse sur ce dernier verset, mais ce pain de vie et ce vin qu'il est peut nous interpeller tellement, même en lien avec ce qu'on appelle la mort. Est-ce que vous vous rappelez dans Romains 8, où Paul, nous dira que l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Voilà les amis, je vous laisse conclure vous-même en faisant vos propres recherches, mais c'est tellement intéressant de voir les implications éventuelles de ce que son sacrifice pour nous implique et veut dire. Voilà, vous verrez ensuite, il y a une autre vidéo, si vous regardez la suite de celle-ci, où je vous invite à prendre la communion ensemble avec moi, parce que je me disais que c'est, on en parle, mais c'est bien aussi de pouvoir le vivre concrètement ensemble. Donc je vous encourage, en tout cas si vous le souhaitez, à transférer sur la prochaine vidéo où on prendra ensemble la communion. Voilà, je vous fais des bises, continuez de vous porter bien en lui, continuez de vous nourrir à la nourriture de son corps, de son parfait sacrifice et de ses eaux vives et de son sang répandu pour nous et du Saint-Esprit qui nous a remplis en plénitude. Bises les amis.